À toutes et à tous, et bienvenue dans le 5e cours émission de la formation Upload Low Technicisation et Numérique, qui était réalisée en partenariat avec Framasoft, Picasoft et Kélis. Il est 12h30, vous écoutez la radio Graphite 94.9 FM, et nous sommes ensemble pour une heure de cours émission, à propos cette fois d'ingénierie informatique et soutenable. Je suis Audrey Guélou et j'ai le plaisir de co-animer cette émission avec Stéphane Croza. Bonjour Stéphane.
Bonjour Audrey.
Stéphane, la semaine dernière, tu as posé beaucoup de questions à Guillaume Carnino sur son concept d'empreinte fantôme. Et aujourd'hui, c'est à Benjamin Lucier que tu poseras toutes tes questions. Bonjour Benjamin.
Bonjour Audrey.
Et aujourd'hui, nous sommes aussi avec Rémi de Picasoft. Salut Rémi.
Salut Audrey.
Alors Benjamin, tu es enseignant-chercheur en informatique au laboratoire EUDIASIC de l'UTC et tu es aussi membre du groupe de travail LONUM. Pour rappel, les contenus que nous présentons proviennent du travail de ce collectif et sont à retrouver sur lonum.fr. Et donc aujourd'hui, Benjamin, tu as prévu de nous parler plus précisément d'ingénierie informatique et soutenable. Avant de laisser Stéphane te poser une première question à ce propos, un dernier point pratique. Nous sommes à la radio, mais nous sommes aussi en direct sur PeerTube à l'adresse tube.picasoft.net, chaîne Upload Lonum. Vous pouvez donc nous poser toutes vos questions dans les commentaires du live ou dans le canal Mattermost dont vous trouverez le lien dans la description du live. Et puis on essaiera, comme d'habitude, de laisser un petit peu de temps à Benjamin cette fois pour que, Benjamin, tu puisses y répondre. Voilà, enfin, la rediffusion de ce live, de ce cours émission et des précédents sont à retrouver sur la chaîne Upload Lonum. Et puis c'est parti, on commence à parler d'ingénierie informatique et soutenable.
Alors Benjamin, donc tu vas nous parler ingénierie informatique et soutenabilité. Pour commencer, je te propose de refaire le lien avec donc la problématique de l'eutechnicisation qui nous anime ici et que tu connais bien à travers les travaux que l'on mène ensemble dans le groupe LONUM. Alors peut-être nous rappeler brièvement en quoi le numérique s'articule au problème de soutenabilité et quels sont un peu les objectifs que l'on peut avoir en termes d'action sur le domaine numérique informatique en vue d'améliorer la situation écologique.
Bien sûr. Donc le développement soutenable dans le cadre du numérique a deux objectifs principaux. Tout d'abord, on veut réduire l'empreinte écologique, économique et sociale du numérique ou par le numérique. Et d'autre part, à plus long terme, on va essayer d'inventer de nouveaux modèles de société pour prendre en compte les limites de l'écosystème et utiliser intelligemment des technologies numériques existantes. Par exemple, les scénarios de l'ADEME qui ont déjà été évoqués dans cette émission. Donc on a trois périmètres particuliers sur lesquels on peut travailler. Le Green IT 1.0, c'est réduire l'empreinte du numérique particulièrement. Le Green IT 1.5, c'est réduire l'empreinte des organisations à l'aide du numérique, par le numérique. Et le Green IT 2.0, c'est inventer de nouveaux produits ou services plus durables grâce au numérique, donc encore une fois, par le numérique. Le lien avec la low-technicisation, on a principalement les moyens d'action de la low-technicisation sont l'efficience et la sobriété pour essayer d'optimiser les outils numériques, donc qui sont des moyens techniques. Et après, on peut aussi utiliser des approches socio-techniques, notamment à travers le changement des usages, pour essayer de limiter donc ces impacts.
Ok, alors dans la continuité de la BICONF que nous avait fait Yacine Baouche lors de la première session, hein, puisqu'on parle d'impact, donc est-ce que tu peux nous faire un petit rappel de la façon dont le numérique impacte la planète? Alors on a beaucoup entendu, hein, toi comme nous, le supprimer vos mails pour sauver la planète. On sait aujourd'hui que c'est très très simpliste comme vision du problème, qu'il faut entrer beaucoup plus dans le détail, accepter un peu qu'on est en face d'un sujet complexe. On a pas mal travaillé ces idées-là lors des cours émissions précédents. Mais est-ce que de ton côté, tu as quelques pistes d'approfondissement de cette question à nous proposer?
Alors, je vais utiliser des informations qui sont données par le collectif Green IT, donc qui régulièrement propose des ACV, donc des analyses de cycle de vie du numérique en France et en Europe. Et donc, à partir de chiffres de ces analyses qu'ils ont fait en 2021, on peut voir que par rapport à tous les facteurs d'impact environnementaux, donc il y a une douzaine de facteurs d'impact environnementaux dans les ACV, en fait, on a trois facteurs d'impact qui sont très, très nettement au-dessus des autres. C'est tout d'abord l'utilisation des minéraux et des terres rares dans le numérique. Deuxièmement, l'utilisation des matières fossiles pour faire de l'énergie. Et troisièmement, l'impact sur le changement climatique. Donc également, on peut se rendre compte que l'impact majoritaire du numérique a lieu au niveau des terminaux utilisateurs. ils sont 20 fois plus impactants pour l'utilisation des terres rares que les data centers et le réseau, et 2 à 5 fois plus impactants pour les matières fossiles et les changements climatiques que les data centers et les réseaux. L'impact majoritaire du numérique, pour le moment, a lieu lors de la phase de la fabrication. Cette phase, à elle toute seule, couvre 80% des émissions des gaz à effet de serre, consomme 88% de l'eau du numérique et 100% des matières premières. Donc, comme on voit, c'est une explication pour laquelle les terminaux utilisateurs sont l'impact majoritaire, parce qu'ils sont bien plus nombreux et du coup, leur fabrication va coûter beaucoup plus.
Ouais, donc hein, je répète, c'est quand même des, là pour le coup des informations que qu'on n'a pas forcément toujours. Hein, donc c'est vraiment là tu mets en exergue le fait que c'est au niveau des terminaux qu'on a le plus d'impact. Hein, je te répète, mais 20 fois plus impactant au niveau des terres rares et 2 à 5 fois pour la partie changement climatique. On va y revenir, mais c'est quand même un point assez essentiel. Je passe un petit extrait audio pour faire une petite pause.
C'était au temps où les dieux existaient, mais où il n'existait pas les races mortelles. Or, quand est arrivé pour celles-ci le temps où la destinée les appelait aussi à l'existence, à ce moment, les dieux les modelèrent en dedans de la terre, en faisant un mélange de terre, de feu, et de tout ce qui encore peut se combiner avec le feu et la terre. Puis, quand ils voulurent les produire à la lumière, ils prescrivirent à Prométhée et à Épiméthée de les doter de qualités, en distribuant ses qualités à chacun de la façon convenable. Mais Épiméthée demande alors à Prométhée de lui laisser faire tout seul cette distribution. « Une fois la distribution faite par moi, dit-il, à toi de contrôler. » Là-dessus, ayant convaincu l'autre, le distributeur se met à l'œuvre. En distribuant les qualités, il donnait à certaines races la force sans la vélocité, d'autres, étant plus faibles, était par lui doté de vélocité, il armait les unes, et pour celles auxquelles il donnait une nature désarmée, il imaginait en vue de leur sauvegarde quelque autre qualité. Aux races en effet qu'il habillait en petite taille, c'était une fuite ailée ou un habitat souterrain qu'il distribuait. Celles dont il avait grandi la taille, c'était par cela même aussi qu'il les sauvegardait. De même, en tout, la distribution consistait de sa part à égaliser les chances. Et, dans tout ce qu'il imaginait, il prenait ses précautions pour éviter qu'aucune race ne s'éteignît. Mais, une fois qu'il leur eut donné le moyen d'échapper à de mutuelles destructions, voilà qu'il imaginait pour elles une défense commode à l'égard des variations de température qui viennent de Zeus. Il les habillait d'une épaisse fourrure aussi bien que de solides carapaces, propres à les protéger contre le froid. Mais capables d'en faire autant contre les brûlantes chaleurs, sans compter que, quand ils iraient se coucher, cela constituerait aussi une couverture qui, pour chacun, serait la sienne et qui ferait naturellement partie de lui-même. Il chaussait telle race de sabots de corne, telle autre de griffes solides et dépourvues de sang.
Alors, Audrey, à toi de parler, pardon.
Je t'en prie. Non, mais c'est normal, c'est ton ami, c'est Sualtam qu'on vient d'entendre. On vient d'entendre la première partie du mythe de Prométhée et d'Épiméthée, donc de Platon, que l'on retrouve dans l'ouvrage Protagoras du 5e siècle avant Jésus-Christ. Alors, c'est une traduction de Léo Robin, éditée au format EPUB par les Échos du Maquis en 2011, qui est lue donc par Sualtam. Sualtam qui fait des lectures audio sous licence art libre disponible sur le site lecture-audio.fr. C'était une première partie du mythe et on vous donnera la suite un petit peu plus tard.
Si on a le temps et qu'on est sage. Alors, on a vu que le matériel, donc, hein, c'était la première cause d'impact du numérique. Benjamin, est-ce qu'on peut rentrer un petit peu plus dans le détail, hein? Tu nous as donné déjà quelques éléments. Est-ce qu'on peut commencer à avoir quelques pistes d'action que l'on peut imaginer, même si la partie solution l'a plutôt prévue dans la seconde partie de l'émission?
Bien sûr. Donc, comme on a dit, l'empreinte environnementale du numérique est principalement due à la fabrication du matériel. Donc, bien sûr, une nécessité pour diminuer l'impact du numérique, c'est d'utiliser le matériel le plus longtemps possible. En pratique, malheureusement, on voit qu'il y a eu une obsolescence accélérée des années 80 aux années 2005, puisque durant cette période de 25 ans, la durée d'utilisation d'un ordinateur en moyenne a été divisée par 4 pour atteindre moins de 3 ans en 2005. Donc récemment, il y a eu des progrès de ce côté-là dans le milieu professionnel, puisqu'il y a eu des lois au niveau européen en 2015 et au niveau français en 2020, qui ont permis de faire repasser ce chiffre de 3 ans en 2015 à 5-6 ans en 2020, donc grâce à ces lois sur le reconditionnement. Malheureusement, cela ne veut pas dire que les entreprises gardent plus longtemps leurs ordinateurs. Le chiffre tient compte de la seconde vie apportée par le conditionnement et en fait, les entreprises continuent de garder leur ordinateur environ 3 ans. Et pour les particuliers, donc, pas de changement spécifique. Les causes de l'obsolescence sont les exigences toujours plus élevées des logiciels, l'évolution des normes, par exemple quand on passe du VGA au HDMI et qu'on doit changer de matériel parce que notre ordinateur ne fait pas de HDMI, l'obsolescence programmée et le besoin de garantie pour les entreprises. Donc, comment traiter ces problèmes matériels ? Au niveau de l'évolution des normes, il faut essayer de garder des moyens de rétrocompatibilité, des adaptateurs, des supports de standards anciens, etc. Et cela va consommer plus de matériel pour les produire, ce qui peut amener des effets rebonds, hein, des pertes de performance, de la complexité, etc. Au niveau de l'obsolescence programmée, il y a un cadre législatif qui existe, mais malgré tout, certaines entreprises, parfois, font ce qu'elles peuvent pour le mettre en place, malgré tout. Et le reconditionnement pourrait être une solution qui est déjà mise en place, mais pas suffisamment. Pour le besoin de garantie pour les entreprises, par contre, là, il y a tout qui est à faire, quasiment. Peut-être développer des conceptions qui donnent priorité à des outils plus durables dans le temps. La modularisation qui permettrait de changer seulement une partie par tout l'objet. Mais généralement, c'est opposé à l'intérêt économique de l'entreprise qui développe le produit, puisqu'elle veut essayer d'en vendre le plus possible. Et donc, il y a des problèmes à ce niveau-là.
Alors, j'ai noté au moins deux points qui mériteraient qu'on revienne un petit peu. L'effet rebond, mais ça, je crois que tu vas en parler plus tard. Tu as utilisé plusieurs fois le terme d'obsolescence programmée. Alors, peut-être que ça va être en lien avec ma question. Parce que si on t'écoute, donc on se préoccupe du matériel, on se dit que, du coup, la partie logicielle reste un axe secondaire. Alors, hein, je rappelle rapidement, mais en gros, la partie matérielle, on a des ordinateurs. La partie logicielle, on a des programmes qui s'exécutent sur ces ordinateurs. Et donc, en t'écoutant, on a un peu l'impression que les gens qui réalisent ces programmes, hein, les développeurs, par exemple ceux qu'on forme ici à l'UTC, ils peuvent continuer de s'amuser un peu à faire ce qu'ils ont envie. Et c'est pas vraiment utile qu'eux s'intéressent à la question de l'impact écologique de leur réalisation. Est-ce que c'était ça que tu cherchais à nous faire passer comme message ?
Alors, pas tout à fait, puisque l'obsolescence programmée, c'est une obsolescence qui est volontairement introduite par le producteur pour faire que le produit tombe en panne plus rapidement et que donc il puisse en vendre le plus possible. Donc ça, c'est illégal. Par contre, on a de l'obsolescence accélérée, qui est involontaire, qui est effectivement due au logiciel, puisque les exigences des logiciels sont toujours croissantes et vont nous amener à changer notre matériel informatique de plus en plus rapidement. En pratique, on a souvent des nouvelles versions tous les 2 à 3 ans du logiciel et la fin du support technique d'une version de 3 à 5 ans en moyenne. Et à la fin du support technique, les entreprises vont toujours vouloir changer de matériel pour garder un support technique et des garanties. Chaque nouvelle version de logiciel en fait, nécessite en moyenne 2 fois plus de ressources que la précédente. Et un petit exemple, donc, pour 12 ans d'écart en utilisant d'un côté Windows 98 et Office 97 et de l'autre côté Windows 7 et Office 2000, on a multiplié par 70 fois la mémoire vive nécessaire par le logiciel pour écrire exactement le même texte. Donc cela s'appelle le phénomène obésiciel ou bloatware en anglais. Donc en pratique, ce phénomène obésiciel peut se retrouver de deux façons différentes. Et en fait, la perte de performance entre des versions différentes de logiciels, soit donc pour des causes de parasitage, soit pour des causes anthropiques. Donc l'obésiciel de parasitage, c'est la consommation de ressources par des logiciels non nécessaires. Donc typiquement, si vous avez des logiciels qui ont été mis sur votre PC par les vendeurs, voilà, c'est des logiciels que vous n'allez pas utiliser très souvent et qui prennent de la place, des ressources, etc. Des logiciels en version d'utilisation, des utilisateurs qui sont redondants ou même des logiciels qui sont mal désinstallés, qui gardent de la place, ou des pilotes de périphériques, etc. Donc ça, c'est le logiciel de parasitage. Et le logiciel anthropique, c'est de la perte de performance du logiciel ou du système d'exploitation après changement de version. Donc parmi les raisons de cet logiciel anthropique, il y a le foisonnement des fonctionnalités inutiles. En moyenne, on a seulement 20% des fonctionnalités d'une application qui sont utilisées par 80% des utilisateurs. Donc ça fait beaucoup de pertes.
Alors, Audrey, à toi d'annoncer le titre.
C'était un extrait de Land of Confusion par Genesis. Ça vient de l'album Invisible Touch, 1986. À toi la main, Stéphane.
Et donc, on a parlé à plusieurs reprises dans nos courts émissions d'effets rebonds. Je crois qu'on en avait donné quelques éléments lors de la première également avec donc Yacine. Mais Benjamin, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ce terme et puis nous expliquer que ce phénomène va s'observer aussi dans le domaine du numérique?
Donc l'effet rebond, c'est un terme dont l'origine vient de l'économie, en particulier de 1865. Par Jevons, qui a formulé le paradoxe de Jevons à travers ses études, où il a vu que, en cherchant à diminuer l'épuisement du charbon, des personnes ont amélioré l'efficacité de sa production, donc pour diminuer l'épuisement du charbon, et paradoxalement, la demande a explosé, et en fait, l'épuisement du charbon s'est accéléré. Donc, c'est ce phénomène qui donne donc le terme d'effet rebond. Et pour des critères environnementaux, la définition, c'est qu'on va on va voir une augmentation de consommation, donc d'énergie, de matières premières, etc., qui est liée à la réduction des limites de l'utilisation d'une technologie, donc parce qu'on l'a rendue plus efficiente, par exemple, en permettant plus de débit de communication, des choses comme ça. Et donc ces limites d'utilisation pourront être monétaires, temporelles, sociales, physiques, liés aux effets de production et d'usage, à leur risque, leur organisation, etc. Donc il y a énormément d'exemples dans le numérique sur l'effet rebond. Et on peut dire qu'il y a trois types particuliers d'effets rebonds. L'effet rebond direct, où l'économie qu'on a réalisée va entraîner directement un accroissement de la communication. Donc par exemple, en miniaturisant des composants électroniques, on pourrait espérer qu'on va diminuer les matières premières, la consommation de matières premières pour les réaliser. Mais en fait, on voit une explosion de leur utilisation dans tous les produits qui peuvent exister. Et donc, au lieu de diminuer la consommation en matières premières, on va grandement l'augmenter. L'effet rebond indirect, c'est une économie réinvestie dans la consommation d'autres produits polluants. Par exemple, si pour la production de matériel ou de logiciel, vous réalisez une économie d'impact environnemental en faisant une meilleure isolation thermique des bâtiments professionnels, et que vous profitez de cette économie financière aussi pour réinvestir dans l'achat de matériel informatique supplémentaire, en fait, c'est un effet rebond indirect. Enfin, on a des effets rebonds structurels, où l'économie va impacter de nombreux autres facteurs. Donc, par exemple, la facilité et le bas coût des transports et des technologies de l'information a amené des délocalisations sur toute la planète, augmentant considérablement les transports de biens, les échanges et modifiant en profondeur les habitudes de vie de toute la planète.
J'ai une petite question sur les effets rebonds indirects. J'ai l'impression que dans la définition que tu en as donnée, ça décrit un petit peu comment dire, l'ensemble des transferts, une grosse partie des transferts qui ont lieu vers le numérique en général. C'est-à-dire qu'effectivement, est-ce qu'il n'y a pas plein de projets qui sont au départ pas en lien avec le numérique et où à la fin on se retrouve avec des coûts numériques supplémentaires parce qu'on a, dématérialisé. Et est-ce que on a un peu un truc tendanciel là-dessus sur le fait d'avoir un risque d'augmentation du numérique plus général, quoi, lié aux réductions dans d'autres domaines?
C'est tout à fait possible. Après, j'avoue, je suis pas un expert sur ce phénomène-là. Mais globalement, effectivement, un exemple, par exemple, c'est au niveau du télétravail. On va avoir des économies de déplacement, mais par contre, on va avoir une augmentation du coût au niveau du numérique, puisqu'il y a les logiciels, les serveurs nécessaires à faire le travail à distance.
Oui, c'est ça, ouais, exactement. C'était un exemple de ce type-là. Alors là, tu nous as présenté donc l'effet rebond. J'ai envie de dire que c'est des problèmes où on n'a pas fait exprès, quoi. C'est-à-dire que donc comme tu l'as dit, hein, je répète là une définition rapide, mais une augmentation de la consommation liée au fait que la technologie devient plus accessible. Donc par exemple moins chère. T'as cité d'autres exemples, mais c'était un exemple. Mais donc dans ces cas-là, on peut entre guillemets dire qu'on l'a pas fait exprès. Bon, même si maintenant le mécanisme d'effet rebond étant connu. On devrait commencer à s'en préoccuper. Alors, il y a des cas où c'est un peu plus fait exprès. J'en avais parlé également dans un des cours émissions précédentes. Hein. Donc, c'est celui du greenwashing. Donc, j'avais dit que tu nous en reparlerais du principe de greenwashing appliqué au domaine numérique. De mon point de vue, c'est un vrai danger pour les actions qui visent à réduire les impacts environnementaux. Encore une fois, parce que comme c'est fait exprès, c'est une technique de manipulation, encore une fois, de mon point de vue, hein, tu nous en donneras peut-être une définition un petit peu différente. En tout cas, on a jugé que intégrer cet aspect-là à la phase de conception l'ONUM avait du sens. Et donc, ce qu'on a proposé dans la formation l'ONUM, c'est un moment que, lors de la phase de conception, on s'auto-évalue pour si, en fait, on tombait de nous-mêmes dans les travers du greenwashing. Donc, c'était une façon de se tendre le bâton pour se battre nous-mêmes, en quelque sorte. Donc, j'ai parlé pas mal de greenwashing. J'avais placé ça dans la méthode 2, rentrer un petit peu dans le détail de ce qu'on entend par greenwashing dans le domaine du numérique.
Alors, j'espère que pour les étudiants l'ONUM, le greenwashing sera involontaire. Mais donc, quand on parle de greenwashing, généralement, c'est de donner une image écologique à une marque ou société en mentant, cachant la vérité ou faisant des allégations non vérifiées sur des bénéfices environnementaux. Donc, dans les prochaines années, c'est probablement quelque chose qui va prendre de plus en plus d'impact. Ça a déjà eu beaucoup d'impact et ça risque d'en prendre plus puisque le grand public est de plus en plus intéressé par ces questions environnementales. On a des crises importantes. Et du coup, on peut imaginer que des entreprises ou des sociétés vont essayer de profiter de cet engouement au niveau de leur image de marque. Donc, c'est quelque chose qui a été étudié dans les années 2010, qui a été beaucoup étudié dans les années 2010. En particulier, la société TerraChoice Marketing Inc. a défini 7 péchés de greenwashing dans une de leurs études. Donc, il y a eu d'autres définitions de péchés, mais globalement, on retrouve à peu près la même chose. Donc, un des péchés, c'est le compromis caché, une prétention ne considérant qu'un nombre restreint d'attributs et occultant le reste. Donc, par exemple, des appareils électriques qui sont dits économes en énergie parce qu'ils consomment moins d'énergie lors d'utilisation, alors qu'on ne parle pas du tout de la phase fabrication et fin de vie, alors que, comme on a dit au niveau du numérique, ce sont les principales responsables des impacts environnementaux. Un deuxième péché du greenwashing, c'est l'absence de preuves. Donc c'est une prétention qui est non étayée par une information facile à trouver et digne de confiance. Un troisième péché, c'est l'imprécision, une prétention vague ou floue. Donc par exemple, dire que mon produit est vert ou préserve l'environnement, sans définir ce que j'entends par ces termes, c'est un exemple d'imprécision. Le quatrième péché, c'est la non-pertinence, une prétention exacte mais inutile ou insignifiante. Par exemple, si je dis que mon produit est conforme avec la norme ROHS, Restriction of Hazardous Substances, c'est un péché de non-pertinence puisque en Europe, adhérer à cette norme est obligatoire pour être commercialisé. Cinquième péché, le péché de moindre mal. La présomption est exacte, mais sur une catégorie de produits globalement nocifs. Par exemple, je vends des cigarettes de tabac biologiques. Je dis, eh bien, c'est bien meilleur pour la santé que les cigarettes non biologiques, parce qu'on a moins de pesticides, etc. Mais ça tue à peu près autant. Sixième péché, un faux écolabel, donc l'utilisation de labels internes à l'entreprise qui sont peu contraignants et qui ne sont pas délivrés par des organismes indépendants. Donc il y a de nombreux exemples dans le numérique qu'on a eu, hein, le label Green IT de Fujitsu Siemens, les labels Eco Green IT et Eco Sustainability de NEC, etc. Et enfin, le dernier péché de greenwashing, le mensonge, c'est tout simplement donner une prétention qui est fausse. Donc, d'après une étude Rachos qui a été menée en 2010, ils avaient mené quelques études entre les années 2005 et 2010. Donc, ils ont mené cette étude sur des produits évalués en Grande-Bretagne et ils ont vu que moins de 1% des produits étaient concernés par le péché de mensonge. Cependant, 73% des produits étudiés étaient concernés par le péché de compromis caché. Et en fait, en tout, 98% des produits étaient concernés par au moins un péché de greenwashing.
Ouais, 98%, donc ça veut dire que c'est vraiment quand même là devenu un mode de communication systématique dans les domaines de la conception aujourd'hui. Donc c'est pour ça que, comme on le disait, on a voulu que dans notre approche de conception, eh bien, on essaye de casser un peu à la racine cette approche. Alors, je pense qu'il y a vraiment dans chacun des péchés que tu as cités, il y avait plein de choses à trouver. Mais je crois que c'était le compromis caché, hein, qui est le premier et qui est le plus fréquent. Et ça m'étonne pas parce que typiquement, ce qu'on voit beaucoup en informatique aujourd'hui, il me semble, c'est beaucoup de discours autour de l'empreinte carbone. Bon, aussi parce que c'est un des points qui est c'est vrai le plus problématique. Mais effectivement, sans oublier la question des ressources. Et c'est vrai qu'assez souvent, des ressources naturelles, typiquement tu en as parlé, des terres rares, etc. Et c'est vrai qu'assez souvent, en fait, on peut avec le numérique faire des économies au niveau de l'empreinte carbone, au moins au niveau de, et pareil tu l'as dit aussi tout à l'heure, hein, mais au niveau de l'utilisation, mais si on occulte la fabrication, la question des ressources, etc., en vrai ça fonctionne pas bien.
Production et rentabilité ne laissent pas de place pour la qualité. Pas de pitié sur le marché, l'économie doit tout dévorer. Aujourd'hui encore, les aliments proviennent de la terre, mais depuis quelques années, la productivité leur a déclaré la
C'était un extrait d'Echo War de Tagada Jones. Ça vient de l'album L'Envers du Décor, qui a été produit en 2003. Et Stéphane, je te passe la main. Donc.
Alors, on a surtout là insisté sur des aspects diagnostiques, même si à plusieurs reprises, Benjamin, tu nous as déjà donné des pistes un peu de solutions. Mais donc, passons vraiment à un volet solution. Alors, on va d'abord parler ACV, analyse du cycle de vie. Alors ça, en théorie, hein, c'est l'arme fatale. On mesure ce qu'un produit consomme. Si on le fait bien, on mesure tout, ressources, énergie, etc. Ce qu'il impacte au sens le plus large. Et ensuite, bah, tout simplement, là où c'est mauvais, on cherche comment optimiser, supprimer, substituer, etc. Bon, alors en fait, si c'était une arme si absolue, ce qu'on essaie de faire dans le cadre de l'ONU n'aurait pas trop de sens. Et donc, on sait qu'il y a des limites à l'analyse de cycle de vie. Donc je te passe la main, peut-être nous rappeler, nous redécrire un peu mieux ce que c'est qu'une ACV, et puis nous exposer les limites de la démarche.
Alors, de toute façon, l'ACV, c'est qu'une analyse. Donc, même si elle était parfaite, il faudrait par ailleurs avoir des moyens pour réduire l'empreinte carbone, puisque l'ACV va juste permettre de déterminer et d'identifier l'impact environnemental d'un produit, tout au long de son cycle de vie. Donc, pour cela, l'ACV va chercher à inventorier les flux de matière et d'énergie entrant et sortant à chaque étape du cycle de vie d'un produit, pour ensuite donc évaluer ses impacts environnementaux à partir de données, de modèles, etc. Donc c'est une méthode qui est normalisée dans la norme ISO 14040, donc c'est en 1997, et donc c'est la seule méthode normalisée qu'on a au niveau de, du développement durable. Donc c'est pour ça qu'on en parle autant, et c'est pour ça qu'elle est importante. Donc dans la pratique de l'ACV, il faut bien déterminer les frontières du système à étudier, donc en donner les limites, quelles sont les entrées, les sorties, le nombre d'unités qu'on va considérer dans notre analyse, les utilisations considérées, etc. Donc les principales phases d'un ACV, c'est l'extraction des matières premières et la fabrication, donc comme on a vu qui est le plus important pour le numérique, le transport et la distribution, l'usage, l'utilisation et la fin de vie. Donc il y a de nombreux facteurs d'impact environnementaux qui sont considérés, hein, pour le changement climatique bien sûr, mais aussi l'acidification des océans, la formation d'agents photooxydants, donc le smog, hein, le brouillard polluant qu'on voit au-dessus de certaines capitales, l'impact sur la santé humaine, etc., etc. Donc cependant, l'ACV se concentre sur les impacts environnementaux, mais dans le développement durable, il ne faut pas oublier les aspects économiques et sociaux, hein, qui ne sont pas traités par l'ACV. Donc le respect des principes équitables dans la phase de production, la discrimination ou le manque d'accessibilité pour les utilisateurs, la viabilité économique aussi, qui reste un facteur dans le développement durable donné par l'ONU, les impacts sociaux, etc. Donc, l'ACV, c'est une méthode utile, même peut-être, une des, comme j'ai dit, la seule méthode normalisée qu'on a à notre disposition. Cependant, il faut comprendre les limites de l'ACV. Ce n'est pas quelque chose de parfait. Et en particulier, parce que tout d'abord, les produits et les systèmes ciblés sont complexes à définir et à comprendre, ce qui peut causer des erreurs. L'ACV, c'est fait par des êtres humains, ce n'est pas automatisable, et du coup, on peut se tromper dedans. Également, il n'y a aucune garantie qu'il n'y a pas des éléments qui ont été ignorés dans l'analyse. Des entrées-sorties auxquelles on n'a pas pensé, les processus d'une phase ou d'un produit qui vont faire plus d'impact que ce qu'on a identifié, soit par oubli, soit par absence d'information. Enfin, si elle est utilisée pour guider le développement, l'ACV ne peut se baser que sur des prévisions. On ne peut pas connaître le futur, l'ACV ne permet pas encore de prédire le futur, donc ça restera une estimation. Et la difficulté à collecter l'ensemble des données nécessaires à la réalisation peut amener à travailler sur des modèles qui sont approximés ou à ignorer les informations qu'on n'a pas. Donc la conséquence de tous ces problèmes, c'est que le résultat d'un ACV reste une approximation, il faut garder ça en tête, et donc peut être éloigné de la réalité. En plus, c'est un processus qui est coûteux en temps et en travail. Malgré cela, encore une fois, c'est la seule méthode normalisée actuelle pour évaluer l'impact environnemental d'un produit.
Alors, est-ce que on peut peut-être illustrer ça un peu plus dans le domaine du numérique, parce que je crois que, encore une fois, si on projette l'ACV de la gourde qui est devant moi, par exemple, on voit que c'est un objet pas trop compliqué. Enfin, j'imagine. Donc, comme tu le dis, on va dépendre d'un modèle, mais ce modèle à prendre en compte l'ensemble des étapes de la fabrication, du recyclage, de la fin de vie, etc. Comme tu l'as dit, c'est fait par des humains, mais appréhender cette gourde, ça paraît pas, ça paraît pas très très difficile. En revanche, si on prend un logiciel informatique qui va tourner sur plusieurs machines en réseau avec des mises à jour, des nouvelles versions, etc., etc., on a l'impression que le problème est beaucoup beaucoup plus compliqué que pour ma gourde.
Alors effectivement, l'ACV de système logiciel a des difficultés particulières, difficiles à réaliser parce qu'il n'y a pas de déchets visibles générés, hein, et il y a peu de matières premières utilisées dans la phase de fabrication du logiciel. Et il n'y a pas d'obsolescence intrinsèque non plus à un logiciel. Un logiciel, on peut l'utiliser, c'est du code qu'on va compiler et qu'on peut réutiliser. Et donc, du coup, les impacts proviennent majoritairement de sources de production. Les impacts directs proviennent majoritairement de sources de production liées au matériel et aux ressources humaines mobilisées lors du développement. Cependant, il y a des impacts indirects dont on a parlé, puisque, encore une fois, le logiciel est une cause importante de l'obsolescence accélérée du matériel. Donc, les phases d'un ACV logiciel sont les phases classiques, la fabrication, la distribution qui va généralement être assez faible, l'utilisation et la fin de vie. Les principales problématiques qu'on peut retrouver dans l'ACV du logiciel, c'est que les ressources de développement quand des entreprises travaillent sur le développement logiciel sont généralement partagées sur plusieurs projets à la fois, et donc difficile de bien suivre le travail effectué au logiciel. La fabrication d'un logiciel n'est en fait pas du tout terminée à la commercialisation, contrairement à Tagourde, où le fabricant ne va pas te courir après pour la tripatouiller ou la modifier parce qu'elle avait un petit trou. Dans le logiciel, en fait, 50% des coûts de développement sont dans la maintenance du logiciel. Donc on a à peine dépensé la moitié du coût du logiciel quand il sort, quand il est vendu par le producteur. D'autres questions, est-ce qu'une nouvelle version du logiciel est une continuation ou un nouveau produit? Est-ce qu'il faut la prendre en compte dans l'ACV ou est-ce qu'on fait un autre ACV pour ça? Des parties du logiciel peuvent être des bibliothèques qui sont déjà existantes ou développées par des sous-traitants et pourtant il faut les prendre en compte dans l'ACV. Enfin, voilà, il y a tout un tas de thématiques complexes vis-à-vis du logiciel.
Vieux piano,
tes maudites guitares,
ton mixeur,
ton toaster,
ma télévision,
ton chauffage thermique,
tes stores électriques, l'arrosage automatique. Sur la planète, du tout à jeter, nos mains expertes peuvent tout racheter.
C'était un extrait de la chanson Monsieur l'ingénieur par Robert Charlebois en duo avec Louise Forestier. Ça vient de l'album Et voilà en 2019. Alors, on a une remarque question qui nous vient de Mastodon, donc d'Ambinu sur Mastodon, qui vient de penser à l'empreinte fantôme. Et il nous fait remarquer que l'ACV pourrait prendre en compte l'empreinte fantôme, mais cela demanderait de coupler ingénierie et philosophie, ce qui est une approche peu commune.
Alors juste pour rappel, hein, l'idée, je vais la synthétiser très 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 trop rapidement, mais une des idées de l'empreinte fantôme, c'était que, il y a une difficulté et une nécessité à tirer tous les fils, c'est-à-dire quand on commence à s'intéresser à l'impact d'un processus, d'un objet quel qu'il soit, eh bien en fait il y a plein de choses que l'on voit, que l'on ne voit pas, qui ne sont pas directement accessibles et il faudrait creuser pour aller les chercher. Alors tu nous l'as dit déjà, Benjamin, dans le domaine du numérique, c'est un peu c'est nativement un endroit où on ne voit pas bien les choses. Est-ce que tu vois comment faire un lien avec la question de l'ACV ?
Alors le lien entre l'ACV et l'empreinte fantôme, c'est globalement dans la définition des frontières du système. Comme on a dit, c'est fondamental pour l'ACV de fixer les frontières du système au début. Et du coup, ce qu'on ne va pas mettre dedans fera partie de cette empreinte fantôme. Et on ne peut pas penser à tout quand on fait un ACV, il y a forcément des choses. Il y a un moment où il faut s'arrêter, hein. Le système est complexe, on ne peut pas aller jusqu'au bout. Donc il y aura toujours une empreinte fantôme, et cette taille de cette empreinte fantôme dépendra de la frontière qu'on essaie de fixer. Mais bien évidemment, il y a des choses... L'ACV, généralement, considère un produit, considère l'utilisation d'un produit, différentes choses. On peut prendre en compte certains aspects après, mais on va se retrouver limité, inévitablement.
Ouais, une question de complexité, de systémique, des choses qu'on a abordées aussi un petit peu précédemment et sur lesquelles il va falloir qu'on continue à travailler. Alors un autre sujet central quand on parle d'ingénierie informatique, c'est la question des méthodes agiles. Hein. J'en ai parlé déjà la semaine dernière, ou la semaine d'avant plutôt, pardon. Donc j'ai proposé en quelque sorte que les méthodes agiles portaient en soi des principes compatible ou en tout cas pas incompatible avec la low-technicisation qu'on pouvait ou qu'on devait en revanche rediriger ces méthodes vers des objectifs de soutenabilité et de convivialité. Est-ce que ça peut fonctionner selon toi ?
Alors, pour moi, les méthodes agiles ont des avantages qui peuvent grandement aider pour le développement durable. Tout d'abord, une meilleure convergence avec les utilisateurs, puisque les utilisateurs définissent le backlog qui va être développé à chaque sprint de la méthode agile. Et du coup, ils vont permettre d'éviter les fonctions inutiles de cette façon-là en se focalisant sur celles qui les intéressent le plus. Il y a également un retour rapide du client sur le produit qui permet de ne pas développer quelque chose qu'on va acheter et de s'assurer que c'est vraiment quelque chose qui l'intéresse. Et globalement, il y a une meilleure maîtrise des coûts et des délais qui permet d'arrêter le projet à tout moment et d'avoir malgré tout quelque chose et pas d'arrêter le projet et d'avoir des pertes et fracas qu'on va devoir jeter, ce qui arrive souvent dans les projets informatiques. Donc ça, c'est un premier avantage. Le deuxième avantage qui est un peu lié, c'est que c'est un processus itératif qui permet d'ajouter, si nécessaire, dans le backlog, des tâches de réduction de dettes techniques ou d'empreintes environnementales ou de nouvelles mesures et des corrections sur les contraintes environnementales pour essayer de prendre en compte donc, ces aspects-là. Cependant, on en a discuté tous les deux bien souvent, il y a des rebonds possibles s'il y a une perte de la posture de sobriété du côté du client ou de l'utilisateur. Le client peut être enthousiaste face à toutes les fonctionnalités proposées par le développeur et donc vouloir faire des choses qui au final ne l'intéressera pas et que l'utilisateur final n'utilisera pas du tout. Ou le développeur ou son entreprise peut chercher à faire le maximum de fonctionnalités possibles pour miser le coût du produit. On est face à un problème qu'on va retrouver souvent dans le développement durable, c'est que le développement durable n'est pas toujours et même souvent et en contradiction avec l'intérêt économique de l'entreprise. Ça, c'est une question qui est difficile, qui est délicate et auquel il faudra s'attaquer. Après, en plus des méthodes agiles, il y a d'autres actions ou d'autres techniques pour le développement durable qu'on peut prendre en compte lors de le développement du logiciel. Si on ne fait pas des méthodes agiles, si on fait des méthodes de développement plus classiques, comme le très connu cycle en V pour les développeurs logiciels, ben on peut essayer de prendre les exigences environnementales dans la liste d'exigences fonctionnelles du système. Et ensuite, vis-à-vis du développement du logiciel, pour chaque phase de vie du logiciel, il y a des actions qui peuvent être intéressantes. Par exemple, lors de la phase de fabrication, favoriser le télétravail pour réduire le déplacement des employés. Prolonger la durée de vie du matériel et des instruments importants pour réduire l'impact de la phase de fabrication. Au niveau de la phase de distribution, privilégier une distribution dématérialisée, parce que même si on a des serveurs qui tournent, c'est souvent mieux que des déplacements de camions avec la production de manuels utilisateurs papier et de choses comme ça. Éviter des installations de trop grosse taille en espace disque et des performances surdimensionnées, en proposant par exemple à l'utilisateur d'installer seulement les fonctionnalités qui l'intéressent et pas tout de base. Donner des pratiques commerciales claires pour le client, ça c'est des choses qui ne sont pas faites toujours et qui entrent dans le développement durable, hein. C'est pas uniquement l'impact environnemental, c'est encore une fois, il y a aussi les aspects sociétaux et les aspects économiques à prendre en compte. Dans la phase d'utilisation, il faut faire de bonnes conceptions pour éviter les aspects obésiciels dont on a parlé et considérer aussi les aspects sociaux comme l'accessibilité, le respect de la vie privée, la sûreté, la sécurité des systèmes. Et enfin, dans la phase de vie, on en a parlé dans l'obésiciel de parasitage, hein, mais il faut penser à faire une désinstallation propre de son logiciel en enlevant tous les aspects, tout ce qui est du logiciel, les périphériques, les choses comme ça. Permettre à l'utilisateur de récupérer facilement les données hein, qu'il veut garder, qu'il veut pouvoir transmettre peut-être d'une application à une autre. Et également, proposer une interruption du logiciel ou du service sans contrepartie dissuasive. Bien souvent, si on est sur du cloud ou des choses comme ça, ben voilà, on a des données, on a un système, et quand on veut changer, ben on, peut-être des fichiers de configuration ou des choses comme ça, on peut avoir des difficultés à récupérer peut-être tout ce qu'on veut. Donc voilà.
Ouais, tu as commencé une bonne pratique, on va dire, en développement. On va glisser un petit peu après sur une petite pause avant.
C'était un extrait de The Handler de Muse, ça vient de l'album Drone en 2015. Et on est parti pour une dernière partie maintenant.
Alors, voilà, pour conclure, Benjamin, donc on a vu avec l'exemple du greenwashing, les objectifs des méthodes agiles, enfin les différents points que tu viens de nous présenter en termes de bonnes pratiques de développement. Et tu l'as dit aussi à un moment qu'il y a quand même une contradiction peut-être intrinsèque qui vient se poser entre eh bien plusieurs parties, les objectifs des utilisateurs clients, les objectifs des entreprises fournisseurs de solutions, informaticiens, développeurs, les objectifs environnementaux, je parle même pas des objectifs des propriétaires des entreprises, propriétaires du capital, etc., etc. Peut-être objectifs également des politiques ou des gens qui définissent les lois, les normes. Bref, il y a quand même des gens qui vont tirer dans des sens différents. Alors, pour gérer ces contradictions, à mon avis, il y a deux choses. Enfin, peut-être une première, et c'est ce qu'on essaie de faire dans l'ONUM, hein, c'est les mettre à jour, voir où ça coince. Forcer le trait, souligner en quelque sorte les endroits où on a des contradictions. Et donc pour ça, eh bien, ce qu'on sait faire en ingénierie, justement, est de mettre à jour les problèmes plutôt que de les cacher. Donc ça, c'est un premier point à mon avis. Donc il est essentiellement méthodologique. En quelque sorte, c'est pas très très difficile à faire. Il suffit de entre guillemets quand même l'appliquer. Et puis il y a un deuxième point, c'est de proposer en quelque sorte des codes, alors internes au projet que l'on va mener. Hein, c'est pas des... là, du coup, si c'est des codes, c'est vraiment à l'échelle, entre guillemets, locale. Ça peut être un niveau un petit peu plus global. Tu as commencé à en parler avec des normes. Alors, les normes, en général, donc c'est externe au projet, mais c'est non contraignant. Et puis, on peut-être aller jusqu'à des lois, hein, donc qui sont des contraintes externes et contraignantes. L'enjeu étant de forcer à travers ces codes, normes et lois, eh bien, la redirection écologique que l'on a présentée. Alors, à mon avis, ça rejoint le rôle que l'on a présenté comme relevant de l'alerte dans le cadre de la low-technicisation, hein, l'ingénieur, il fait pas des lois, il fait pas directement des lois, mais par contre, eh bien, il peut mettre en exergue les problèmes, interpeller la sphère collective, politique, etc. Donc c'était un petit peu à notre sens une des pistes pour traiter les contradictions, donc les accepter et les traiter. Et donc pour ça, Benjamin, eh bien, tu nous proposes de travailler sur des notions de code éthique.
Alors tout à fait. Donc pour reprendre un petit peu ce que tu disais, l'ingénieur se retrouve au milieu de tout un tas de choses, hein, le client, les utilisateurs, son employeur, l'environnement, et il y a des contradictions un peu entre tous ces différents éléments. Donc, notamment, par exemple, entre l'employeur et l'environnement, ben, on en a parlé, mais donc, la sobriété qu'on voudrait avoir au niveau de l'allotechnicisation est en opposition avec la facturation ou le marketing du produit où on va chercher à avoir le plus de fonctionnalités possible pour toucher le plus grand, possible, le plus grand public possible. Également, les approches durables dont on a parlé, donc la CV ou des développements pour prendre en compte certains aspects ou optimiser les choses, tout ça, ça a un coût qui est effectivement aussi qui va devoir être porté par l'employeur. Donc, l'ingénieur se trouve au milieu de toutes ces contradictions un petit peu. Or, on voit qu'il y a une appétence de plus en plus importante des ingénieurs, hein, à l'UTC par exemple, pour un impact positif et durable de leur travail sur la société. Donc, comment faire au milieu de tout ça? Ce sont des points difficiles, hein. Donc, les lois, tu en as parlé, c'est efficace, puisque la loi pour le reconfinement du matériel informatique a donné de grands progrès en termes de durée de vie du logiciel, avec certains astérisques, comme on a dit au début de l'émission. Mais comment aller au-delà, peut-être? Eh bien, c'est une question importante. Et le code éthique, peut-être les codes éthiques, apporteraient un élément de réponse. Et donc, notamment, l'ACM, Association for Computing, et l'I3E Computing Society, en 1997, se sont assemblés pour proposer un code d'éthique des ingénieurs logiciels. Donc c'est un code qui se trouve très facilement en ligne. Dans le cours LONUM, il y a une référence DOI qui permet de le retrouver très facilement. Et donc, c'est un code éthique qui va donner des principes fondamentaux, proposer des règles sur différents aspects, donc en particulier considérant le public, le client et l'employeur, le produit, les jugements de l'ingénieur, la gestion que met en place l'ingénieur, la profession d'ingénieur, les collègues et soi-même. Donc quelques exemples dans ces 8 catégories. Au niveau du public, par exemple, ce code éthique dit que l'ingénieur accepte la responsabilité complète pour le travail, pour le logiciel qu'il a développé. L'ingénieur va chercher à modérer les intérêts de l'ingénieur, de soi-même, de l'employeur, du client, des utilisateurs, avec le bien public. Donc l'ingénieur va informer les autorités appropriées de tout danger pour l'utilisateur, l'environnement ou le grand public. Et là, on retrouve donc le message d'alerte dont tu as parlé. Au niveau du client et de l'employeur, les ingénieurs logiciels doivent agir d'une manière qui est dans le meilleur intérêt de leur client et l'employeur et conforme à l'intérêt public. Donc, comme exemple de préconisation, enfin de demande de ce code éthique, être honnête dans ses propres compétences et leurs limites, garder les informations privées confidentielles de l'employeur tant qu'elles ne sont pas contraires à l'intérêt public et à la loi. Au niveau du produit, ce code demande à ce que les ingénieurs logiciels s'assurent que leurs produits et les modifications connexes sont conformes aux plus hautes normes professionnelles possibles. Par exemple, réaliser toute action de maintenance aussi professionnellement que le développement d'un nouveau produit. Modifier, faire la maintenance évolutive ou adaptative d'un logiciel, ça ne se fait pas comme ça à 5 heures du soir. Il faut y passer du temps, autant de conception, etc. Ou garantir une documentation suffisante. Donc ça, c'est des points que les ingénieurs informaticiens connaissent bien, mais souvent, peut-être, ne traitent pas suffisamment.
Parce qu'ils sont mal formés, ça, Benjamin.
Non, c'est parce qu'on n'a souvent pas le temps de tout faire et que certains aspects très importants passent à la trappe face aux limites temporelles. Au niveau du jugement, les ingénieurs logiciels doivent maintenir l'intégrité et l'indépendance de leur jugement professionnel. Par exemple, maintenir une objectivité professionnelle face à tout logiciel ou document à évaluer, même si on n'aime pas certains systèmes d'exploitation, ou essayer d'être objectif vis-à-vis de ça. Refuser, bien sûr, de participer à tout comité ou organisation dans laquelle l'employeur peut avoir de potentiels conflits d'intérêts non déclarés. Au niveau de la gestion, du management, le responsable de l'ingénierie logicielle et les dirigeants doivent souscrire et promouvoir des approches éthiques à la gestion du développement de logiciels et de la maintenance. Donc ne pas empêcher quelqu'un d'obtenir un poste pour lequel il est correctement qualifié, s'assurer qu'il y a un juste accord sur la propriété de toute propriété intellectuelle à laquelle un ingénieur a contribué, etc. Au niveau de la profession, les ingénieurs doivent porter la réputation de la profession conforme à l'intérêt public. Par exemple, ne pas promouvoir son intérêt personnel aux dépens de la profession d'un client ou d'un employeur. Être précis sur les caractéristiques d'un logiciel développé pour éviter non seulement les propos faux, mais aussi les propos vagues, hypothétiques, manipulateurs ou douteux. Donc le greenwashing n'est pas autorisé par ce code d'éthique. Au niveau des collègues, les ingénieurs logiciels doivent être justes et aider leurs collègues. Encourager les collègues à adhérer à ce code, par exemple. Assister les collègues dans leur développement professionnel. Créditer justement le travail des autres et ne pas s'octroyer de crédits non mérités. Et enfin, envers soi-même, les ingénieurs logiciels qui souscrivent à ce code disent vouloir participer à l'apprentissage tout au long de la pratique de leur profession et promouvoir une approche éthique de la pratique de cette profession en améliorant ses propres connaissances tout au long de la carrière, en reconnaissant, que, par exemple, que ne pas respecter ce code est en contradiction avec être un ingénieur développeur responsable et professionnel.
Merci Benjamin de ces pistes, hein, effectivement, à t'entendre et sur la micro-discussion qu'on a eue au milieu, mais effectivement, je pense que ça a du sens dans une formation d'ingénieur de prendre justement le temps de s'arrêter sur ces aspects-là, bien qu'en général, on a envie de faire plein d'autres trucs liés à notre enseignement. C'est aussi ce qu'on va essayer de proposer avec l'ONUM, c'est-à-dire si on n'arrive pas suffisamment à prendre le temps dans chaque UV, dans chaque cours, eh bien au moins d'avoir des moments à côté pour revenir dessus.
Un extrait de Take the Power Back par Rage Against the Machine qui vient de l'album éponyme sorti en 1991. Alors Benjamin, j'ai deux questions à te poser, deux questions qui nous viennent de Celti d'une part et de Thomas Bernard d'autre part. Une première question à propos donc de l'ACV, on revient sur l'ACV. Donc Celti est allé voir la norme ISO 14040 sur l'ACV et a vu les attendus de la norme, la liste des points de la revue critique de l'ACV. Et donc, en regardant tout cela, elle se demande, elle voit qu'on risque de passer beaucoup de temps et d'énergie à gérer l'analyse du cycle de vie. Et donc, sa question est, ça paraît peu compatible avec les petites structures aujourd'hui de réaliser une ACV.
Alors tout à fait, comme on l'a dit, l'ACV, c'est un processus qui est coûteux en temps et en travail. Donc en faire un aussi complet que possible peut être très long, très difficile. D'autant plus que lors de la conception d'un logiciel, on ne va pas faire l'ACV une fois. On va faire l'ACV chaque fois qu'on décide de changer ce qu'on veut faire, hein, parce qu'on peut changer d'idée et de conception lors du développement d'un logiciel. Donc ce qui augmente encore les coûts de l'ACV. Donc, il n'y a pas de solution miracle à ça, hein. L'ACV a des difficultés. Par contre, on propose par exemple à l'ONUM, on va faire une petite adaptation. Pareil, les étudiants qui vont être dans l'ONUM n'auront pas le temps de faire un ACV complet, pas le temps et pas les moyens, hein, et pas les données de le faire. Mais par contre, au moins se poser des questions de façon similaire à l'ACV, essayer de trouver une réponse ou de brainstormer sur le principe de l'ACV, sans respecter la méthode elle-même et sans respecter la norme, ça permet quand même d'avancer sur le sujet et d'avancer dans le développement durable.
Merci Benjamin. Alors tu nous as beaucoup parlé aussi, tu nous as parlé de la formation des ingénieurs, mais Thomas se demande quid de la formation des utilisateurs pour simplifier des logiciels, les abstractions et les interfaces qui rendent les logiciels inefficients.
Alors tout à fait, c'est quelque chose d'important qui pourrait d'ailleurs être ajouté dans le développement de logiciels. Quand je développe un logiciel, ça fait partie du développement, d'ailleurs, former les utilisateurs dessus, mais former en plus à ces impacts de sobriété, etc. C'est typiquement un des objectifs, d'ailleurs, de l'allotechnicisation, hein, à travers le changement des usages. Donc la formation des utilisateurs permettrait un changement d'usage pour justement penser à désinstaller ces logiciels ou penser à ne pas installer de logiciels redondants ou d'installer seulement les fonctionnalités qu'il faut ou tout un tas de choses qui effectivement sont importants. Hein. Les utilisateurs vont devoir être formés pour permettre cette sobriété numérique.
Merci beaucoup Benjamin. Eh bien écoutez, je crois qu'on arrive au terme de cette émission. On va se retrouver mardi prochain à la même heure sur Graphite, en live aussi sur Peertube, mais pour le dernier cours émission de cette saison du libre cours Technicisation et numérique. D'ici là, eh bien, rejoignez-nous sur l'onum.fr et sur librecours.net et puis on restera en contact sur Mattermost et sur Mastodon et Peertube en suivant le tag l'onum. Mais avant de rendre l'antenne et de vous passer la seconde partie du mythe de Prométhée et d'Épiméthée lu par Sualtam, je voudrais donner la parole à Rémi à côté de moi qui est à Picassoft et qui, Rémi, tu veux nous parler d'un événement qui a lieu ce soir à l'UTC qui est co-organisé par Picassoft et la Quadrature du Net.
Exactement, merci Audrey. Je profite d'être en studio pour rappeler donc aux Compiénois et aux Compiénoises que Picassoft invite la Quadrature du Net ce soir à l'UTC pour nous parler de surveillance généralisée dans l'espace public. Cette conférence aura lieu à 19h dans l'amphi FA201 et vous pouvez retrouver toutes les informations sur picassoft.net.
Merci Rémi. Allez, c'est parti, on envoie la seconde partie du mythe par Sualtam. Merci Stéphane, Benjamin et Rémi pour aujourd'hui. Merci à vous pour vos questions et à la semaine prochaine.
Merci Audrey, merci Benjamin, au revoir.
Merci à tous.
Chacun sait cela. Épiméthée n'était pas extrêmement avisé. Il ne se rendit pas compte que, après avoir ainsi gaspillé le trésor des qualités au profit des êtres privés de raison, il lui restait encore la race humaine qui n'était point dotée, et il était embarrassé de savoir qu'en faire. Or, tandis qu'il est dans cet embarras, arrive Prométhée pour contrôler la distribution. Il voit les autres animaux convenablement pourvus, sous tous les rapports, tandis que l'homme est tout nu, pas chaussé, dénué de couverture, désarmé. Déjà était même arrivé cependant le jour où ce devait être le destin de l'homme de sortir à son tour de la terre pour s'élever à la lumière. Alors Prométhée, en proie à l'embarras de savoir quel moyen il trouverait pour sauvegarder l'homme, dérobe à Héphaïstos et à Athéna le génie créateur des arts en dérobant le feu, car sans le feu, il n'y aurait moyen pour personne d'acquérir ce génie ou de l'utiliser. Et c'est en procédant ainsi qu'il a fait à l'homme son cadeau. Voilà donc comment l'homme acquit l'intelligence qui s'applique aux besoins de la vie, mais l'art d'administrer les cités, il ne le posséda pas. Cet art, en effet, était chez Zeus. Mais il n'était plus possible alors à Prométhée de pénétrer dans l'acropole qui était l'habitation de Zeus, sans parler des redoutables gardes du corps que possédait Zeus. En revanche, il pénètre subrepticement dans l'atelier qui était commun à Athéna et Héphaïstos et où tous deux pratiquaient leur art, et après avoir dérobé l'art de se servir du feu, celui qui est d'Héphaïstos, et le reste des arts, ce qui est le domaine d'Athéna, il en fait présent à l'homme. Et c'est de là que résultent pour l'espèce humaine les commodités de la vie. Mais, ultérieurement, pour Prométhée, une poursuite, comme on dit, du chef de vol à l'instigation d'Épiméthée.
Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible et décentralisée à l'UTC. Ce semestre, low technicisation et numérique avec Stéphane Croza et Audrey Guélou.